France Inter.
Bonjour Frédéric et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes à 3 mois précisément des prochaines élections européennes et la situation est compliquée pour la majorité, très largement distancée dans les intentions de vote par le Rassemblement National. Pour le contrer, c'est une inconnue, Valérie Ayer, qui a été officiellement désignée tête de liste, sauf qu'officieusement, c'est le président Macron et son Premier ministre qui ont déjà commencé à mener la bataille contre Jordan Bardella. Une bataille électorale sur fond de guerre culturelle et de conflit en Ukraine. Est-ce que le pari sera gagnant ? Clément Beaune, futur porte-parole de la campagne des européennes, ancien ministre des Transports, redevenu député de la majorité. Il est notre invité ce dimanche en direct et jusqu'à 13h.
Question politique. Karine Bécart sur France Inter.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Merci d'être ce midi sur le plateau de Questions politiques pour vous interviewer. Nous sommes trois, comme chaque dimanche. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Et Françoise Fressoz, bonjour Françoise, du journal Le Monde.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors d'abord, et comme toujours, on commence avec nos images de la semaine. Clément Beaune, qu'est-ce qui a marqué, selon vous, l'actualité cette semaine ?
Il y a eu, évidemment, on en reparlera dans l'actualité politique, ce meeting des européennes qui marque le coup d'envoi de la campagne, qui est si importante. Mais il y a eu aussi des lois très importantes qui ont été votées. Mm-hmm. Une loi constitutionnelle sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais peut-être quelque chose dont on a moins parlé, qui est une loi votée à l'Assemblée nationale de reconnaissance et de réparation des discriminations qu'ont connues les personnes homosexuelles de notre pays jusqu'au début des années 80.
Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur votre image ? Qu'est-ce qu'on
vous
avez choisi ?
On voit sur notre image l'un des derniers condamnés, Michel Chomara, qui a témoigné cette semaine d'ailleurs et ces derniers mois, avec quelques autres, je pense à Bernard Bousset, qu'on a vu un peu sur les antennes. Ce sont des personnes qui sont aujourd'hui encore parmi nous, mm-hmm. donc ça n'est pas il y a des siècles, c'était il y a quelques décennies à peine, et qui ont connu, vécu ces discriminations, les descentes de police, le fait que l'homosexualité était pénalisée.
Il a été le dernier à être condamné.
Il a été l'un des derniers condamnés, effectivement. Mmh. Et il peut en témoigner. C'est important qu'on ait encore ces témoignages. Et je crois que la République est très belle quand elle fait avancer les droits, quand elle regarde le passé en face, répare et reconnaît les moments moins glorieux. Et puis, c'est aussi un message, je le dis, vous connaissez mon engagement pour cette cause, la cause des droits LGBT, mais les droits en général et l'égalité. Mmh. C'est un message, je pense, à tous les jeunes. Les jeunes gays, les jeunes lesbiennes, les jeunes LGBT, qui souffrent d'une immense discrimination, encore parfois aujourd'hui, d'attaques, d'insultes, de guet-apens. On le voit et ça ressurgit. D'abord pour leur dire le progrès est possible. Et la France de 2024 n'est pas la France de 1984 ou de 2004 que j'ai connue quand j'ai été étudiant. On peut avoir des droits et l'égalité, conquérir ces droits, le mariage pour tous. Nous avons interdit les thérapies de conversion et c'est important aussi de dire cela. Et puis... je leur dis, la société est de votre côté, la loi est de votre côté. Quand vous faites traiter de sale pédé, de sale gouine, de tapette, ça existe encore dans nos cours d'école, sur les réseaux sociaux, parfois de plus en plus. La loi et la société sont avec vous. Ce ne sont pas ceux qui vous insultent qui ont raison, ça n'est pas tolérable, acceptable. On ne fait pas avec, on le dénonce. Et donc je pense que c'est important que la loi consacre l'égalité, reconnaisse les discriminations, répare. Le vote n'est pas définitif, il y aura encore un débat avec le Sénat.
Exactement.
Mais tous les groupes politiques l'ont soutenu. Je crois que c'est important aussi qu'on ait des moments d'unité sur des questions aussi symboliques et sensibles.
Autre image avec vous, Françoise Fressoz, et vous revenez sur un autre combat également.
Oui, c'est sur le combat en faveur de la constitutionnalisation du droit, enfin de la liberté de recourir à l'avortement. Ça se passe vendredi. Mm-hmm. C'est le moment solennel où on va apposer le sceau de la République sur cette loi constitutionnelle. On voit sur l'écran, sur cette image, Emmanuel Macron et la plus jeune signataire du manifeste des 343 qui s'appelle Claudine Monteil. Pour ceux qui pourraient l'avoir oublié, en 1971, le Nouvel Observateur avait publié un manifeste « Je me suis fait avorter » dans lequel ces femmes avaient eu le courage de braver le risque pénal pour dire « Il faut légaliser l'avortement en raison des risques médicaux que fait peser, au fond, la clandestinité. »
Bien sûr.
Et j'ai trouvé cette cérémonie très belle, à la fois parce qu'elle est solennelle, parce qu'on voit le prolongement historique entre le combat des femmes de 1970 et celui d'aujourd'hui. Mmh. Et puis, il y avait aussi le petit grain de folie apporté par Catherine Ringer.
La chanteuse.
En entonnant la Marseillaise, va en changer, va en modifier certains mots en interpellant citoyenne, citoyen. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, d'abord, ça montre la force du mouvement féministe en France et sa continuité dans l'histoire. C'est-à-dire le combat Germaine Montagne, c'est aussi le combat aujourd'hui de ceux qui font MeToo. Et puis, je trouve que c'est le signal que la société française est peut-être beaucoup moins à droite qu'on ne le dit, qu'il y a des moments importants comme cela où un vote au Congrès, 780 voix pour inscrire dans la Constitution ce droit, et je trouve que c'est plutôt positif et ça fait du bien par les temps qui courent.
Allez, on termine avec vous, Nathalie Saint-Cricq, qu'une image plus politique.
Oui, et puis moins consensuelle que celle dont on vient de parler, qui sont peut-être plus questionnante, comme on dit. C'est l'image d'Emmanuel Macron à Prague et c'est les accusations qu'il a, qui en ont suivi de bellicisme, de va-t-en-guerre, de faire de la politique pour mettre dans les cordes le Rassemblement National en montrant ses ambivalences vis-à-vis de l'Ukraine. Mm-hmm. Alors on peut effectivement dire ça, considérer que c'est pas le moment et que c'est inopportun. Puis moi je considère plutôt que c'est peut-être un moment de lucidité, que c'est peut-être un moment, un réveil, et que c'est peut-être un réveil salutaire et que sans aller jusqu'à parler de Munich, d'esprit munichois, même si quand même, ou de mourir pour Danzig, c'est très bien de saluer l'Ukraine, c'est très bien d'aimer la démocratie, c'est peut-être encore mieux de s'en donner les moyens et de réveiller les gens.
Ma position sur les questions militaires, je l'ai montré quand j'étais président, c'est que moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité et de ne rien faire connaître à, en l'occurrence, Vladimir Poutine, de nos intentions.
Alors, vous avez reconnu, évidemment, François Hollande, l'ancien président qui a été reçu mercredi soir à l'Élysée par Emmanuel Macron pour parler du dossier ukrainien après ses propos controversés sur une possible intervention en Ukraine. Le lendemain, jeudi, Emmanuel Macron toujours recevait tous les chefs de parti. Est-ce qu'il en fait trop en ce moment, Emmanuel Macron? C'est un peu ce que dit finalement François Hollande. Est-ce que dans son face-à-face avec la Russie, est-ce qu'il va trop loin?
Je ne crois pas du tout. Et je vais vous dire, je trouve que ce débat est en partie indécent et un peu surréaliste. Mm-hmm. On est en situation de guerre sur le continent européen. On ne l'a pas inventé, ça ne vient pas parce qu'il y a une élection européenne, parce qu'il y a un débat au Parlement qui aura lieu mardi, parce que ça conviendrait, entre guillemets, à tel ou tel. Enfin, mesurons la gravité de la situation. Nathalie Saint-Cricq parlait d'accusations de bellicisme à l'égard du gouvernement ou du président de la République. Bon, la guerre, elle n'est pas une invention. On n'est pas des bellicistes. Le va-t-en-guerre, on a quand même l'impression qu'il faut remettre, pardon de le dire de manière laïque, l'église au milieu du village. C'est Poutine qui fait la guerre. C'est pas nous qui faisons la guerre. C'est l'Ukraine qui est agressée et envahie par des Russes. C'est notre sécurité.
Mais François Hollande dit sur les questions de géopolitique, plus on est discret, plus on travaille en coulisses, plus on est efficace. Enfin, il est efficace, là, Emmanuel Macron, en verbalisant les choses aussi clairement?
Mais justement, je pense que c'est un point très important. Le président de la République, dans son rôle de garant de notre sécurité, de chef de nos armées, il a justement utilisé une forme d'ambiguïté qui est nécessaire et stratégique, comme on dit. C'est-à-dire, on ne fixe pas une limite donnée, précise, connue de celui qui attaque nos alliés, en l'occurrence Vladimir Poutine, parce que si on dit, écoutez, moi je m'arrête là, alors que lui, on ne sait pas où il s'arrête, on se met en danger. Et je le redis, la sécurité de l'Ukraine, c'est pas des inventions, c'est pas des propos de campagne, c'est pas des propos d'estrade, la sécurité de l'Ukraine, c'est la nôtre. Où ça s'arrête si l'Ukraine tombe demain? Et pardon pour ceux qui ont l'impression que tout ça est déconnecté de la vie quotidienne. Nos concitoyens, ils ont vécu évidemment moins douloureusement, tant mieux, parce que nous sommes protégés par l'Europe aussi, la guerre que les Ukrainiens eux-mêmes. Enfin, les prix de l'énergie, l'inflation, la désorganisation de nos chaînes économiques, le marché agricole, tout ça, ce sont des conséquences de l'agression de Poutine en Ukraine. Donc la guerre, elle nous impacte et on doit répondre.
Est-ce que quand Raphaël Glucksmann dit que le chef de l'État a beaucoup louvoyé avant d'avoir cette position claire sur l'Ukraine, est-ce que vous répondez, on a essayé de négocier, on s'est rendu compte que c'était pas possible? Et en gros, est-ce que vous êtes d'accord avec François Hollande qui dit, en gros, Poutine ne connaît que la force, en justifiant non pas le fait de parler trop, mais celui d'employer des techniques finalement de dissuasion?
Non, mais là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vécu aux premières loges, j'étais à l'époque ministre des Affaires européennes, sous présidence française de l'Union européenne, quand la guerre a éclaté.
Est-ce qu'il a été naïf, Emmanuel Macron?
Non, je ne crois pas du tout. Il y a eu des moments successifs, mais refaisons très rapidement la chronologie des choses. Le président de la République, au nom de la France et de l'Union européenne, il a jusqu'au bout avant le 24 février 2022 et l'attaque, essayer le chemin de la paix. On l'a parfois reproché, maintenant on lui reproche l'inverse. Donc, je pense qu'on a été cohérent dans les différents moments. Est-ce qu'il fallait, sans naïveté, essayer d'éviter le conflit, sans considérer que c'était impossible? Le président de la République, sans trahir de grands secrets, j'ai assisté à beaucoup de réunions, n'a jamais été naïf. Il a toujours dit que la guerre, l'attaque de Poutine, était une vraie possibilité. Mais il fallait tenter cette chance.
Mais je précise quand même que l'été 2022, la guerre, ça fait déjà 6 mois qu'elle tourne, à ce moment-là, Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas humilier Vladimir Poutine.
Il va falloir trouver une solution. Je reviendrai sur ses propos, mais
ça,
c'est toujours dit parce
mois.
Que l'histoire est longue et la Russie ne va pas déménager. Et donc, il y aura un après-Poutine, il y aura un après-guerre. Quand, comment, malheureusement, ça n'est pas l'actualité. Donc, c'est ça qu'on a dit. Mais on a été très clair. On a essayé d'éviter la guerre. Poutine l'a décidé. On a réagi tout de suite. C'est ça que je voudrais rétablir. On n'a pas été naïf, on n'a pas attendu. La première semaine de la guerre, l'Europe a apporté 500 millions d'aides militaires à l'Ukraine, l'Europe a interdit Sputnik et Russia Today, l'Europe a fermé son espace aérien, l'Europe a adopté, sous présidence française, en moins de 6 mois, 6 paquets de sanctions, la moitié de toutes les sanctions décidées depuis. La France était à la manœuvre. La France a ensuite, et l'Europe, soutenu l'Ukraine, y compris, on aura peut-être ce débat, en reconnaissant son statut de candidat à l'Union européenne. C'était aussi sous présidence française, dès le premier semestre 2022.
Non mais là, il y a un changement de comportement quand même.
Parce que la posture a changé. Prendre la République dans les premières semaines de la guerre, on le sait. Il a essayé de continuer à discuter avec Vladimir Poutine. On lui a aussi reproché, il a bien fait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue possible et il y a un durcissement russe et en Ukraine.
Alors,
et à notre égard, via des cyberattaques notamment, c'est ça la réalité.
Y a un
et donc si vous ne regardez
russe,
pas la réalité du moment en face, il faut répondre.
Il y a un durcissement russe et il y a aussi un énorme malaise au sein des alliés de la France, qui comprend pas très bien ce concept d'ambiguïté stratégique. On voit le couple franco-allemand pratiquement par terre. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça aussi qui alimente le doute autour des propos de Emmanuel Macron? C'est son incapacité à souder autour de lui une riposte européenne et du coup, une faiblesse apparente pour les
Je
Russes.
Je ne crois pas, mais d'abord, l'Europe a été dans chacune des décisions importantes de sanctions contre la Russie, de soutien pour l'Ukraine, unie. C'est un fait.
Et là, elle est désunie sur la possibilité.
Là, on est dans un changement de moment. Parce qu'on voit que la situation est difficile sur le terrain, parce que les attaques de la Russie se multiplient, y compris à notre égard par d'autres formes, cyberattaques notamment, y compris contre nos forces militaires, on l'a vu parfois. Et on voit bien que l'Europe, disons-le franchement, a toujours du mal avec les postures de conflit, a toujours du mal avec les moments de crise. Et
mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas avoir de mal. Parce que Stéphane Séjourné dit dans la tribune ce matin,
le ministre
on
des
est
Affaires
d'accord
étrangères.
Avec les Allemands à 80%.
Je vais y venir
bah ouais,
tout de suite.
C'est les 20%.
Mais est-ce que, pardon, on l'a fait dans le passé, on l'a reproché, moi j'ai toujours défendu cette thèse. Est-ce que le rôle de la France, c'est parfois pas de bousculer un peu le confort bourgeois de l'Europe qui croit que la paix est acquise?
Je
le crois. Il faut le faire avec prudence, il faut le faire avec unité. Mais Stéphane Séjourné a raison de rappeler la réalité des faits. J'ai bien connu les discussions franco-allemandes, c'est toujours difficile. Et on n'a pas les mêmes positions stratégiques historiquement. Le rapport à la guerre, le rapport à l'intervention, le rapport au soutien militaire n'est pas le même, c'est clair.
C'est bien de les traiter de lâches, les Allemands. Est-ce
non,
que vous qui les connaissez
le
quand vous étiez aux Européennes?
La République n'a pas traité les Allemands de lâches. Collectivement.
Il a dit les Alliés ne doivent pas être lâches.
Ouais, c'est une...
Olaf Scholz, quand il a répondu à Macron, avait cru comprendre que c'était pour lui.
Non. Il y a eu des discussions entre le président et le chancelier, personne n'a été pris par surprise, et le ministre des Affaires étrangères que vous avez cité a reçu son homologue allemande qui a demandé ce long échange à Paris cette semaine, et c'est vrai que le soutien français-allemand, parfois on nous reproche même l'inverse, ils sont à peu près de même nature, ils sont à peu près de même intensité, pardon, ils sont pas exactement de même nature, mais on est complémentaires, on n'a pas les mêmes forces armées, on n'a pas les mêmes modes de soutien, les Allemands ont décidé de ne pas envoyer de moyens de frappe, très bien, les Britanniques et les Français, nous le faisons, mais ils apportent un soutien civil qui est important et sur d'autres modes d'équipement militaire. Est-ce que vous voulez me faire dire que l'Europe, c'est pas aujourd'hui une défense commune, une stratégie commune? Bien sûr, mais on a fait des progrès.
Mais comment on
fait
dire ça?
Mais pardon, on a fait des progrès. On a fait des progrès énormes. Et oui, l'unité européenne est un combat, mais elle a été au rendez-vous depuis 2022. Là où Poutine pensait qu'on allait supprimer le soutien, se déchirer, faiblir, on ne l'a pas fait.
Est-ce qu'il faut rester
vigilant? Oui, et garder l'unité.
Comment sortons de ce différent franco-allemand? Est-ce que vous avez une proposition? Est-ce que vous dites, non, mais c'est pas si grave que ça, il y a peut-être un moyen de s'en sortir, de rapprocher les points de vue?
Attendez, d'abord, le différent franco-allemand, je le nuance très très fortement, puisque l'événement au cours duquel le président s'est exprimé sur les modes d'intervention, les modes de soutien, c'était une conférence à Paris, il y avait évidemment l'Allemagne, il y avait 25 États, et l'essentiel du soutien concret qu'on apporte maintenant, parlons de la réalité, il a été consensuel et renforcé. Il a été consensuel et renforcé sur les questions de déminage, sur les questions de coproduction d'armement, y compris sur le sol ukrainien. C'est quand même une avancée majeure. Il a été consensuel aussi sur la lutte collective contre les cyberattaques russes. C'est ça la réalité européenne. Toutes les sanctions, même si ça a parfois été difficile, on a fini par les adopter toujours. Et le dernier paquet de soutien à l'Ukraine, ça a été un combat que la France a mené. C'était la Hongrie à ce moment-là qui mettait le veto, pas les Allemands. On a obtenu ces 50 milliards de soutien. Donc, évidemment, l'unité européenne est toujours un combat. Évidemment, l'Europe est bousculée dans ses certitudes. On a redécouvert la guerre sur notre sol.
Mais justement, et donc, Clément Beaune, pardonnez-moi, je vous coupe parce que...
Pardon, mais c'est difficile d'avoir cette posture stratégique, mais je crois que la France et le président de la République ont bien fait et ont cette responsabilité d'alerter et d'avancer.
Mais vous répondez collectivement, vous répondez Europe, sauf qu'en ce moment, la Russie s'adresse directement à nous, France. Oui. La question, c'est est-ce que la France est en capacité de pouvoir répondre directement à la Russie? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on a les moyens, parce que vous parlez de cyberattaque, est-ce qu'on a vraiment les moyens de répondre à d'éventuelles cyberattaques russes également? Et puis, dernière question, on a quand même le renseignement intérieur français qui commence à alerter sérieusement les forces de l'ordre en disant on risque d'être attaqué, il risque d'y avoir des agressions. Donc là, c'est sur notre sol, c'est pas l'Europe. Donc, est-ce que la France est en capacité de résister à la Russie?
Mais la France est en capacité, doit le faire en renforçant ses efforts de vigilance, de réponse sur ce type d'attaque, ses efforts de soutien à l'Ukraine, et je le dis, dans un cadre européen, y compris la lutte contre les cyberattaques, sans rentrer dans le détail qui, évidemment, protège notre sécurité. Nous avons des coopérations entre les forces de sécurité intérieure et extérieure, notamment pour identifier, attribuer les cyberattaques. Le ministre des Affaires étrangères était dans les Pays-Baltes l'autre jour. Vous parlez de consensus européen et de posture européenne. Les Pays-Baltes, ils savent ce que c'est que la menace russe. Et ils ont salué très fortement, je pense que ça doit aussi nous alerter, j'allais dire nous réconforter d'une certaine façon.
Plus on est vers la Russie, plus on est avec la France.
Bien sûr, parce qu'on sait ce que c'est. Non, mais... Et au début, on nous disait l'inverse. Moi, vous savez, j'ai pensé cette semaine à cette phrase de François Mitterrand devant le Bundestag. Les pacifistes sont à l'ouest.
Et les missiles sont à l'est.
Et on revit un peu la même situation. Et sans revenir à Munich, même s'il y a des aspects d'esprit munichois, malheureusement, dans l'extrême droite française qui demeurent, parce que là aussi, elle est constante.
Que l'extrême droite? Vous ciblez systématiquement aussi. L'extrême droite?
Oui, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, c'est celle qui a
sur les ambiguïtés
le plus
avec
de parlementaires, le plus d'élus au Parlement européen, le plus de bilan à assumer.
Sur
les ambiguïtés, elles sont malheureusement largement partagées, vous avez raison, notamment à l'extrême gauche. L'esprit munichois se retrouve des deux côtés du spectre politique. Bon, mais au-delà de ça, et sans revenir à 1938, c'était il y a 40 ans, le président socialiste avait raison. Et on le reprochait d'ailleurs à l'époque, y compris ses alliés de gauche, d'avoir été, disait-on, belliciste. Les pacifistes, ceux au sens qui ne veulent pas voir la réalité de la guerre et qui ne veulent pas soutenir ceux qui sont en difficulté, sont toujours ceux qui préparent le chemin du nationalisme et de la guerre contre nous.
Est-ce que c'est un discours qui fait gagner des élections européennes?
Mais pardon, c'est pas un discours de campagne, c'est pas un discours d'élection. On n'a pas inventé la guerre, on n'a pas inventé Vladimir Poutine, on s'en passerait volontiers. Mais les élections, c'est pas la vie à côté. C'est pas une vie parallèle. Ce sont des choix démocratiques pour notre pays, notre continent. Donc que ce soit un débat qui se pose aussi dans la campagne des européennes, c'est légitime et c'est normal. Et que chacun, que nos concitoyens, puisqu'on va avoir ce vote essentiel à faire le 9 juin, mais ça continuera après, se posent les questions de qui fait quoi et qui habite où, qui soutient qui. Parce que Jordan Bardella, il parle français, mais il vote russe au Parlement européen. C'est une réalité. C'est pas quelque chose qui a été découvert cette semaine, ça fait 5 ans et même plus, 40 ans pour sa famille politique.
Donc finalement, en me répondant, vous êtes bien en train de me dire qu'il y a un calcul électoral qui se joue. Il n'y a pas que de la lucidité géopolitique.
Il y a une réalité politique qui est qu'il y a ceux, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais nous sommes aux responsabilités, qui apportons un soutien à l'Ukraine et qui reconnaissons la menace russe. Vous avez parlé de Raphaël Glucksmann sur ce sujet, il a toujours été très clair, je le reconnais bien volontiers, on a d'autres différences. Et j'espère qu'il y a d'autres partis politiques qui sont clairs dans le spectre politique français, mais pas l'extrême droite et pas l'extrême gauche.
Est-ce que dans la réaction de dix des partis traditionnels, ou du moins de ce qu'il en reste après l'élection d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez été déçu par leur attitude? C'est-à-dire, en gros, vous vous attendiez à ce que le RN dise ça, vous vous attendiez à ce que l'extrême gauche, LFI et NCO disent ça. Est-ce que sur ce qui reste de LR, du PS, vous êtes dit...
C'est un sujet trop...
Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, même quand on entend François Hollande.
Oui, c'est un sujet trop grave pour diviser artificiellement, justement. Ça, ce serait, je pense, inutilement une division apportée à notre pays. Nous aurons un débat au Parlement qu'a voulu prendre la République
mardi. Vous leur demandez quoi, en fait, le vote, j'ai pas compris. Sur quoi on vote?
Alors, pour essayer de clarifier.
Sur l'accord de sécurité.
De manière générale, sur le soutien à l'Ukraine, je pense en effet que ça doit nous rassembler le plus largement possible. Et je regrette en effet qu'il y ait cet esprit de défaite qui soit encore là, qui soit notamment très fort à l'extrême droite, notamment très fort à l'extrême gauche, et puis des ambiguïtés. Quand Éric Ciotti, un gaulliste qui est attaché normalement à l'engagement de la France dans le monde, à la voix de la France dans le monde, à la force de notre nation contre les menaces, j'ai pas très bien compris son propos, Enfin, il avait l'air d'attaquer le président de la République. Je pense que ce n'est pas la bonne posture aujourd'hui. On verra au Parlement, justement. Le Parlement aura un débat et un vote sur quelque chose qui relève du président et du gouvernement, mais le président a voulu qu'il y ait une expression démocratique. C'est un débat au Parlement mardi. On verra ce que chaque force politique dit sur le soutien à l'Ukraine, sur le renforcement de ce soutien, sur le soutien ou non à un accord de sécurité qui fait que pour les 10 prochaines années, nous nous engageons à apporter tout le soutien
donc
nécessaire
à l'Ukraine.
Le vote,
c'est là-dessus, c'est sur...
C'est un débat et un vote sur l'accord de sécurité.
D'accord, précisément là-dessus, pas plus englobant.
Non, parce qu'il faut qu'il y ait un objet, c'est ce que prévoit la Constitution, et l'objet, c'est en effet cet accord de sécurité. Mais soyons clairs, à travers l'accord de sécurité, c'est la question de fond sur est-ce qu'on soutient l'Ukraine ou non qui est posée, est-ce qu'on s'oppose à Vladimir Poutine ou non qui est posée.
Donc du coup, il y a la volonté de démasquer la poutinophilie du Rassemblement National. On a Gabriel Attal, ça va pas du tout. On a Jordan Bardella qui, à la suite du meeting d'hier, le premier meeting de campagne de Valérie Ayer, a parlé d'obsession maladive pour le RN, vu la quantité d'attaques qu'il y a eu sur le Rassemblement National, avec l'insulte et la peur en permanent dans les propos qui ont été tenus. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour tenir une campagne électorale?
Est-ce que l'on mesure aussi là la gravité de la situation? Je me permets de le redire. Personne ne pensait, il y a une dizaine d'années, qu'un pays quitterait l'Union européenne. Personne ne pensait, il y a une dizaine d'années, que l'Union européenne pourrait et devrait faire face à des pandémies, à un effondrement économique possible que nous avons contré grâce à nos actions européennes. Personne ne pensait que la guerre était possible sur le continent. Cette gravité-là, elle doit nous habiter, elle doit quand même nous instruire. Il ne s'agit pas de dire c'est la répétition de ce qui s'est passé dans les années 30, les années 80, c'est jamais exactement le même scénario. Mais est-ce insulter un parti politique ou un leader politique que de lui rappeler qu'il a toujours soutenu la Russie et qu'il n'a jamais voté le soutien à l'Ukraine? Est-ce que c'est un sujet grave? Oui. Est-ce que les Français doivent en mesurer la gravité? Oui. Est-ce que je crois, dans le débat public, politique, médiatique, on est encore au bon niveau de gravité, de conscience de ce sujet? Je ne crois même pas. Je crois qu'on vit encore, je me mets dans le lot collectivement, dans un certain confort, en pensant que Kiev, ça reste très loin. Moi, je suis allé en Ukraine quand j'étais ministre des Transports, et comme vous le savez peut-être, je l'ai dit, j'ai une famille d'origine ukrainienne, donc je connais un petit peu cette situation et l'histoire. Bon, c'est à 2h30 d'avion de Paris, et si Poutine gagne en Ukraine, les mêmes qui vous disaient qu'il n'attaquera jamais, vous disent aujourd'hui, les Pays-Baltes, jamais, la Pologne, oui. Il n'y touchera
Est-ce
pas.
Que la...
Bon, et donc je le dis avec, il n'y a pas besoin d'outrer les choses ou d'exacerber les choses, c'est la réalité crue. Il y a ceux qui veulent mener ce soutien à l'Ukraine, mener ce débat, et ceux qui ne sont pas à l'aise parce qu'ils ont toujours été du mauvais côté de l'Europe et de l'histoire.
Sur la gravité de la situation, parce que c'est quand même la toile de fond de toute cette campagne des élections européennes, est-ce que vous êtes grave pour aujourd'hui, parce que vous dites l'Ukraine est en danger, vous êtes grave pour dans 6 mois, si jamais Trump remporte les élections américaines et qu'on risque d'avoir une déficience dans le soutien américain, est-ce qu'on se prépare au pire ou est-ce que le pire est déjà là? En fait, c'est ça qu'on comprend pas bien aujourd'hui et avec ce décalage avec l'opinion publique, parce que l'opinion publique, elle soutient pas tellement la proposition d'Emmanuel Macron de dire, si possible, si nécessaire, il faut envoyer des troupes au sol. Mais et ça, on voit bien qu'il y a une réticence. Donc, comment vous expliquez?
On est grave depuis 2 ans. Vous vous souvenez que le 24 février 2022, le président de la République, c'était son rôle, c'était adressé aux Français, avec des mots extrêmement sérieux, extrêmement lourd sur le retour du tragique dans l'histoire, le retour de la guerre sur notre continent. Nous n'avons jamais caché la situation. Certains, je n'en faisais pas partie, ont pu penser que la guerre durerait quelques mois et que, soit drame suprême, la Russie aurait gagné, je ne sais pas si on parlerait français aujourd'hui, ou que l'Ukraine allait s'en sortir. Il faut un soutien dans la durée. Et c'est ça qui est difficile pour nos démocraties, c'est vrai, mais nous n'avons pas relâché les efforts, et c'est le rôle du président, du gouvernement, de la majorité de le dire, on doit continuer. Et c'est pas seulement pour le 9 juin, parce que malheureusement, je crois que la situation restera difficile après. Mais c'est le message qu'on envoie au moment où la Russie se durcit. Est-ce que Vladimir Poutine reçoit un message de fermeté, d'unité, de tenir bon dans la durée ou pas, qui est la leçon suprême et le message suprême envoyé?
Et
puis, pardon, vous avez raison, tout cela se fait sur une toile de fond qui n'est pas seulement le 9 juin, mais qui est le 5 novembre, où il y aura une élection à Washington. Est-ce que l'Europe est en situation aujourd'hui de faire sans les États-Unis? Non. Est-ce que l'Europe doit se préparer à une réélection de Donald Trump, à, admettons-le, c'est tout à fait possible, un retrait, une diminution de l'engagement américain? On voit bien à quel point les Républicains bloquent déjà le soutien à l'Ukraine au Congrès. Oui, on doit s'y préparer. Et on serait fou, et on nous le reprocherait à juste titre, si le 6 novembre au matin, on disait, est-ce que vous avez anticipé que Donald Trump pourrait remettre en cause l'OTAN, arrêter le soutien militaire à l'Ukraine. 80% du soutien militaire qui était apporté aujourd'hui à l'Ukraine, il est américain. On fait notre part, mais on doit se préparer à pouvoir la renforcer. Parce que ce n'est pas les États-Unis qui souffriront le plus d'une défaite ukrainienne, c'est nous.
Allez,
et donc moi,
question,
je ne veux pas dépendre de l'élection à Washington,
question, Nathalie,
je veux dépendre de l'élection à Strasbourg
et
à Paris.
Bon, on débat à l'Assemblée nationale et au Sénat la semaine prochaine. D'abord, comment est-ce que vous anticipez les choses? Et ensuite, c'est pas un risque? Parce qu'imaginez qu'il y ait un rejet au nom des ambiguïtés d'Emmanuel Macron, de ce côté va-t-en-guerre dont j'ai parlé tout à l'heure et dont certains parlent. Qu'est-ce qu'on fait?
Ça va l'isoler, en tout cas.
Ça
changera rien.
Non, c'est pas un vote qui changera les choses, mais est-ce que symboliquement, ou même politiquement, c'est pas un risque énorme que vous prenez de...
Mais il faut pas renverser les choses.
Je renverse pas. On a dans la
5e
République un président qui peut, en gros, faire à peu près ce qu'il veut... en général, en politique étrangère.
Mais la raison, si vous êtes minoritaire, ça sera gênant
si
pour le président.
Tout est isolé. La France n'est pas affaiblie en Europe.
Voilà. Mais c'est la force, et c'est, je veux dire, le risque inhérent à la démocratie. Mais je suis fier de vivre en démocratie pour ça, que le Parlement.
Non, mais on est tous fiers.
Que le Parlement, que le Parlement soit sollicité sur des sujets aussi importants pour exprimer un avis, c'est comme ça que prévoit les choses la Constitution. C'est sain. Et justement, dans une démocratie, rien n'est écrit. C'est la force et le vertige des démocraties.
Le vertige
aussi, mais ça veut dire aussi que c'est pas un jeu, c'est pas une posture, c'est pas pour ou contre le président, le premier ministre, etc.
Oui, mais tirer les conséquences, si effectivement c'est le cas, si effectivement...
Moi, je crois...
Qu'est-ce qui se passe
après ? Je veux croire à la responsabilité des partis politiques qui sont les partis de gouvernement, qui se prétendent comme tels notamment, les autres extrémistes de droite ou de gauche devront aussi se positionner.
Monde, les autres, hein.
Oui, d'accord, et bien, ça sera l'occasion de dire... si leur patriotisme allégué est une réalité, si leur lucidité revendiquée est une réalité.
Allez,
et c'est
Bonne.
Bien dans une démocratie qu'on voit ce que chacun fait.
Vous êtes notre invité dans Questions politiques ce dimanche jusqu'à 13h. Parlons à présent scrupuleusement de la campagne pour les élections européennes. Cette campagne qui vient de commencer pour vous, je parlais de la majorité bien sûr, premier meeting hier, on en parlait à Lille, à 3 mois jour pour jour du scrutin européen, sincèrement, 3 mois de campagne pour rattraper 12,5 points de retard face au Rassemblement national. Ça, c'est le sondage de ce matin qui a été publié dans la Tribune dimanche, sondage Elab. Ça vous semble sincèrement possible ou pas? 12,5 points à rattraper, comment on fait?
Tant qu'on n'est pas le 9 juin, tout est évidemment possible dans un sens et dans l'autre. Bon. J'ai le souvenir.
Comment on fait?
J'ai le souvenir de campagnes précédentes, présidentielles ou européennes, où les choses étaient très différentes du résultat final à 3 mois du scrutin. Donc il n'y a pas d'état d'âme ou de nœud au cerveau à se faire. Il faut faire campagne, se battre, expliquer sur la question géopolitique russo-ukrainienne, mais de manière générale, quel projet on veut pour l'Europe. Donc le seul sujet, c'est le combat. Le meeting d'hier, il a donné le coup d'envoi du match. Le match commence, donc tout commence maintenant. Que la situation soit difficile, parce que quand vous êtes aux responsabilités, bah, on vous met... plus de critiques sur le dos, c'est normal, et que ceux qui sont l'opposition, notamment le Rassemblement National, soient extrêmement forts pour surfer entre les colères, pour surfer sur les colères, oui, mais on va se battre.
Vous n'êtes pas parti trop tard?
Je ne crois pas que... La dernière fois, on est parti plus tard, vous savez, on a fait un bon score, donc ce n'est pas ça qui détermine les choses.
Vous êtes arrivé deuxième, vous avez
fait... Ce qui détermine les choses, c'est la ténacité, la capacité à expliquer notre programme, et je le dis d'un mot, puisque on ne va peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais... Nous n'allons pas réinventer notre posture européenne. Elle est claire et elle était même peut-être en dessous de la gravité qu'on a vécue au moment du discours de la Sorbonne. On a défendu, on nous a rionné la souveraineté européenne en disant la souveraineté nationale de la France se renforce par la coopération européenne sur la défense, sur la régulation du numérique. On était les seuls en 2017 contre toutes les forces politiques, même en Europe justement, à dire il faut un budget européen de défense. Aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend qu'il faut le décupler. Bon, donc il faut tenir cette ligne, pas seulement regarder dans le rétroviseur, mais je crois qu'on a une crédibilité pour dire qu'on sait changer l'Europe. On l'a fait sur la défense, on l'a fait sur le Covid, on l'a fait face au Brexit, alors que les autres, et notamment l'extrême droite, soit se sont planqués, soit ont franchement joué contre notre pays.
François Fressoul.
Est-ce que la tonalité de la campagne n'est pas du coup extrêmement sombre et est-ce qu'il n'y a pas des éléments peut-être plus optimistes à intégrer dedans? Je me souviens d'Erasmus avec Jacques Delors qui a vraiment porté l'Europe par ses projets qui s'adressaient aux jeunes. Est-ce que vous auriez un volet de cette campagne qui soit un peu plus heureux?
Les deux, mon général, si je puis dire. On ne peut pas nier, je le disais, la gravité de la situation. Et on ne peut pas non plus, le temps d'une campagne, vivre comme des bisounours qui seraient à l'écart du monde. Bon. Donc, la gravité existe et elle durera au-delà du 9 juin. Bon. Mais vous avez raison, moi je crois qu'on ne doit pas être... un vote rempart seulement, on doit être un vote d'espoir. Et un vote d'espoir, c'est assumer que nous avons fait le diagnostic de ce que devait être le projet européen, souveraineté européenne. Tous les grands défis, toutes les grandes crises du monde nécessitent une action européenne sur la question migratoire, sur la question écologique, sur la question agricole, sur la question de défense. Et on a fait ce chemin depuis 2017. Reprenez le discours de la Sorbonne et les propositions. Nous avons fait énormément de chemin sur les choses très concrètes face aux grands incendies, un budget européen de défense, une réponse économique avec une dette commune face au Covid, etc. Et bien sûr, on doit continuer là-dessus et apporter un espoir européen. Parce que moi, je crois que l'Europe, ce n'est pas simplement une protection, c'est déjà beaucoup qu'on doit renforcer, mais c'est un avenir pour notre jeunesse en particulier. Il faut en effet une forme d'effet Erasmus. Et donc nous aurons l'occasion de faire des propositions de cette nature sur l'écologie, sur la mobilité des jeunes, sur les échanges internationaux. Et ce n'est pas de la naïveté pour le coup. Je crois qu'il faut tenir les deux ensemble. Être capable d'avoir une Europe de la défense et de la sécurité, de l'énergie, puisqu'on voit bien aussi qu'on a été vulnérable face aux Russes au moment du début de la guerre. Et puis avoir un projet pour la jeunesse, qui a envie d'apprendre des langues, de voyager.
Par exemple, sur l'écologie que vous citez, là, ça a été un peu remis en cause par la crise agricole. On voit les agriculteurs très à l'offensive. On voit le pacte vert un peu compromis. Ça restera écologique, l'Europe telle que vous la voyez ou pas ?
Oui, mais parce que la crise écologique, elle n'a pas disparu. Et les agriculteurs, ils en sont les premières victimes. Ils le savent. Donc, on ne va pas changer de cap. Qu'il y ait des difficultés, des incompréhensions, des normes excessives, c'est un fait. C'est mal reçu, mal compris, ça crée de la colère, on y travaille. Parfois, disons-le franchement, parce que l'Europe bouc émissaire, ça va, on a nous-mêmes ajouté des normes. Bon. Et moi, j'étais au salon de l'agriculture longuement la semaine dernière encore, avant la fermeture. On nous disait plutôt qu'il fallait plus d'Europe. Je prends un seul exemple très simple. Au niveau européen, vous avez soit des règlements, soit des directives. Un règlement, c'est quand vous avez la même règle pour tous. Une directive, c'est quand ça change de chaque pays et vous pouvez ajouter des choses. La France est championne d'Europe de ça. C'est-à-dire qu'on prend la règle européenne, on rajoute des normes sur les pesticides.
Donc vous dites, comme l'Emmanuel Macron, il faut suspendre, il y a trop de normes aujourd'hui.
Non, pas du tout. Dis beaucoup d'agriculteurs, ils nous disent, nous, on est d'accord avec le fait qu'il y ait des règles, qu'il y ait une transformation écologique. S'il faut sortir progressivement de tel ou tel produit ou pesticide, faisons-le. Mais en revanche, on ne peut pas accepter qu'on le fasse en France et pas en Belgique, qu'on le fasse en France et pas en Allemagne, qu'on le fasse en Europe et pas dans le reste du monde. Et donc, il faut plus de règles harmonisées en Europe sur ces sujets-là. Si vous n'avez pas un pacte vert européen, vous aurez quoi ? Soit pas d'écologie du tout, je ne crois pas que ce soit l'avenir de l'agriculture, soit 27 pactes verts différents dans chacun des pays de l'Union européenne. Et notre agriculture, elle est connectée à l'Europe, elle exporte en Europe. Donc personne ne veut fermer le marché unique. Si vous voulez un marché unique et de l'écologie, il faut des règles uniques. Et donc le pacte vert au niveau européen, c'est la bonne échelle. Il y a des choses qu'on peut peut-être changer. Mais par exemple, cette semaine, on a interdit les emballages plastiques en 2030. Bien ou pas bien ? Très bien. Nous, on a voté pour. Est-ce que c'est bien d'interdire les voitures électriques en 2035, mais de produire en Europe les futures voitures électriques, d'interdire les voitures thermiques, pardon. C'est très bien, c'est ça aussi le pacte vert. Donc c'est pas seulement les normes agricoles, le pacte
Allez,
vert.
Clément Beaune, quelques questions très précises. Je reviens sur Valérie Ayer, qu'on connaît pas très bien, qui est une inconnue du grand public. On a François Bayrou, qui fait partie de votre majorité, le président du MoDem, qui dit c'est très bien qu'elle soit inconnue, c'est exactement ce qu'il vous fallait, ce qu'il nous fallait. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
D'abord, Valérie Ayer, c'est une personne qui est très connue et engagée en Europe. Ça compte quand même, parce que moi je crois pas que notre but dans la vie, ça soit de faire la politique à la Bardella. Moi, je ne rêve pas que notre candidate soit la championne de la photo et du TikTok.
Les électeurs français, il faut qu'ils la connaissent pour qu'ils aient envie de voter pour
vous. Vous savez, peut-être on peut d'ailleurs le déplorer, je crois que beaucoup de nos concitoyens, moi je suis souvent dans ma circonscription sur le terrain, ils ne savent pas encore qu'il y a des élections européennes, ils n'ont pas encore regardé les listes qui vont arriver et les programmes qui vont se détailler. Donc, on commence maintenant. Bon. Et les Français commencent à regarder maintenant. Donc, Valérie Ayer, elle n'est pas connue aujourd'hui, c'est un fait, elle sera connue au cours de la campagne. Et je pense, oui, que c'est un atout. François Bayrou a raison. Parce que elle a un socle de vie personnelle, issue d'un milieu agricole. Elle a un socle de travail et de reconnaissance au Parlement européen. Et puis, c'est une nouvelle figure politique pour les Français. Et on peut le déplorer aussi, mais dans une période où on se lasse parfois un peu vite de nous, responsables politiques, eh bien, avoir quelqu'un qui apporte du travail, de la fraîcheur, de l'engagement, du fond, et que les Français ne connaissent pas encore, eh bien, tant mieux. Et la campagne va permettre de montrer cela.
Jordan Bardella dit clairement qu'il veut faire des élections européennes un référendum anti-Macron. Donc il vous tend un piège d'une certaine manière et vous tombez dedans en faisant en gros systématiquement que la critique du Rassemblement National. C'est en tapant à bras raccourcis comme l'a fait hier Gabriel Attal ou Valérie Ayer sur le Rassemblement National. Est-ce que c'est pas un peu risqué d'avoir un spectre aussi particulier, aussi ramassé ? Deuxièmement, on a entendu Olivier Véran à l'émission Quotidien il y a 2 jours, inviter, d'abord saluer Quotidien comme n'invitant jamais de représentants du Rassemblement National et inviter les émissions à ne plus les inviter. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est que c'est votre question unique... assez différente.
Alors, mais... oui, il y a 2 choses. Il y a, est-ce que effectivement la stratégie tout sauf Bardella, Marine Le Pen, en oubliant complètement qu'il y a d'autres gens ? Et deuxièmement, est-ce que ça veut dire que vous boycottez et découvrez que le Rassemblement National ne doit être nulle part et qu'en gros l'arc républicain, il est définitivement chanceux ?
Sûr, moi j'ai pas d'obsession, je ne rêve pas la nuit ou je ne cauchemarde pas la nuit.
Non, mais enfin, quand on entend les discours, enfin, on entend.
Il y a de l'obsession.
Oui, mais enfin.
Chez Gabriel Attal, il y a d'obsession par exemple.
Mais
non,
on est tous ensemble.
Une stratégie.
Pardon, mais on va va pas revenir sur tout ce qu'on vient de se dire, la gravité de la situation, elle est là. Mmh. La gravité de la complicité, pas seulement de la complaisance, de la complicité du Rassemblement national avec la Russie, elle est un fait antipatriotique, anti-français, majeur. Mmh. Bon. Ensuite, est-ce qu'on doit parler que d'eux toute la journée? Non. Mais c'est pour ça, la campagne commence maintenant, on va détailler un programme dans les 3 ou 4 prochaines semaines. Il y aura des propositions nouvelles, très ambitieuses, pour investir davantage sur l'écologie et accompagner au lieu de punir. On a fait par exemple ce pacte vert européen, qui est très critiqué, mais qui a apporté des choses très importantes de transformation. Moi, je pense qu'il faut la même chose en termes d'investissement, un pacte vert de l'investissement. Parce que les Américains, eux, ils investissent dans la transformation écologique. On ne sait pas assez bien le faire en Europe. Ça, c'est positif. Ça, ça nous différenciera des autres. Et on fera beaucoup de propositions de cette nature. Donc, il faut dénoncer les dangers. L'Europe est en danger, et notre pays avec. C'est une réalité. Et vous me dites, les sondages sont là. Moi, je ne les prends pas comme une réalité acquise, mais ça veut dire qu'il y a une menace. Mm-hmm. Donc, il faut la contrer, l'expliquer.
Et puis,
je pense qu'on n'est jamais aussi fort comme rempart que quand on est, je le redis, aussi un espoir et qu'on fait ces propositions positives. Je reprends là aussi, c'est notre ADN, on ne va pas en changer. À la Sorbonne, dans la campagne de 2019, on a porté ce moment de gravité contre les dérives de la Pologne et de la Hongrie, contre la complicité avec la Russie déjà qui s'est renforcée. Et on a fait des propositions formidables sur l'égalité salariale homme-femme, sur la lutte contre le travail détaché, sur la lutte contre le dumping social, sur la lutte contre le changement climatique au niveau européen, sur la mobilité pour tous les jeunes qu'on va aussi proposer. Donc on va tenir les deux.
Mais la deuxième partie de la question,
alors,
est-ce qu'il faut les boycotter
ou pas selon vous?
Non, je boycottais...
30% pour l'instant ou 29% ou 28% des intentions de vote.
Soyons clairs, le Rassemblement national, je suis aujourd'hui député, ils ont 89 personnes qui sont assises à côté de moi dans l'hémicycle. Ouais. Est-ce que ça me fait plaisir? Non. Est-ce que je considère qu'ils n'ont pas droit à leur siège? Évidemment pas, ils ont été élus par les Français. Je m'en réjouis pas, mais on ne peut pas le nier. Là, on serait des non-démocrates. En revanche, considérer que ça n'est pas un parti comme les autres, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas mettre de signe égal entre l'extrême droite et même l'extrême gauche, entre le Rassemblement national et la France insoumise, aussi hostile que je sois à la France insoumise, que j'ai combattu même dans les urnes. Bon, tout ça, ces marqueurs-là, ces remparts-là, oui, je crois que c'est important de les marquer. Ensuite, il y a une loi. Moi, j'ai été choqué quand certains, sur d'autres chaînes que vous, des politiques même, ont critiqué une décision de justice, et celle du Conseil d'État, qui rappelait simplement l'application de la loi, qui était celle sur le pluralisme politique, qui vaut pour les invités, qui vaut aussi pour les chroniqueurs. C'est la loi. Si on n'aime pas la loi, on la change, mais on ne critique pas l'application de la loi. Et donc, ça veut dire...
Donc, il s'est trompé, Olivier Véran.
Je ne crois pas, pour être honnête, que ce soit...
Alors, c'est pas très habile, quoi, parce que ça va...
Pardon, mais après, chaque chaîne aussi a des lignes éditoriales.
Oui, bien sûr, et puis il y a l'ARCOM, de toute façon.
Exactement, et c'est contrôlé par le régulateur, et je pense que c'est très bien comme ça. Donc moi, j'ai soutenu les décisions de justice et le rôle de l'ARCOM. Mmh. La loi est prévue pour l'audiovisuel, elle impose le pluralisme, et d'ailleurs, vous êtes ici sur le service public, vous respectez cette loi en invitant des gens des différentes sensibilités politiques.
Scrupuleusement, vous avez raison. Clément Beaune, je voudrais vous faire écouter à présent Véronique Louwagie. Elle est députée des Républicains, membre de la Commission des Finances, et elle a vivement réagi aux annonces cette semaine d'économie présentées par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ces mesures d'économie, c'est 10 milliards en 2024, ce sera le double en 2025. On l'écoute.
Cette annulation de 10 milliards d'euros dans le budget moins de 2 mois après la promulgation de la loi de finances au motif d'une révision de l'hypothèse de croissance m'interroge de savoir, avec tout le respect que je vous dois, si vous avez agi comme des apprentis sorciers ou comme des autruches en mettant la tête dans le sable. Parce qu'en effet, à l'automne, tout le monde vous indiquait que le taux de croissance de 1,4% n'était pas tenable, que ce soit la Banque de France ou l'ensemble des économistes. Et votre budget 2024, finalement, il était construit sur du sable et vous avez refusé d'écouter.
Elle est sévère. Elle a raison ou pas, Clément Beaune ?
Et là aussi, que chacun soit raisonnable et cohérent. J'ai beaucoup de respect pour Mme Louwagie, qui est une bonne spécialiste des finances publiques et qui, y compris dans son parti, est souvent une voix de la raison chez les LR. Mais les Républicains, son groupe, ils ont proposé dans le budget dont on parle ici 100 milliards de dépenses supplémentaires. Donc, qu'ils se fassent les champions aujourd'hui de le redressement des finances publiques, de la gestion budgétaire rigoureuse et sérieuse, c'est un peu fort de café quand même. Bon,
alors,
qu'est-ce qui s'est passé
vous...
Il y a une hypothèse de croissance qui a été votée dans le budget, débattue.
Donc ils disent qu'elle est insincère,
en fait. Elle est contrôlée par le Haut Conseil des finances publiques, il y a des procédures. Hein. Et elle est révisée, oui, parce que la situation est plus difficile partout. On savait qu'il y avait des risques, et ces risques qui se matérialisent, y compris, on en parlait, sur le plan géopolitique, ça a un impact.
Soyons
et donc,
très
on prend des mesures rapides, parce que si on ne prend pas des mesures rapides sur les 10 milliards d'économies, on prend des mesures plus dures, plus tard.
On fait des mesures d'économie.
Mais ça a été annoncé par Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, le ministre du Budget. Ça a été ciblé sur quelques actions. Et ça veut dire qu'il faut...
Et ça va continuer.
Il faut qu'on ait conscience qu'on va construire un budget 2025 qui sera difficile et qu'il faut anticiper. Parce que le pire, moi j'ai travaillé au ministère des Finances, c'est quand vous faites ce qu'on appelle le coup de rabot. encore l'année, c'est
ce qui vient de se passer.
On prend un petit bout partout et du coup, on ne fait pas des choix prioritaires. Si on veut que l'écologie soit prioritaire, que l'école soit prioritaire, il faudra faire des économies ailleurs.
Rappelons votre parcours. Donc, vous étiez ministre, vous resiégez de nouveau à l'Assemblée nationale et on vous classe dans le côté aile gauche de la Macronie. On est dans une période, comme vous le dites, très difficile. Il y a l'Ukraine et puis on voit maintenant qu'on est dans une séquence budgétaire qui va devenir de plus en plus difficile. Est-ce qu'il y a des dépenses qu'il ne faut pas toucher? Est-ce que, par exemple, quand Bruno Le Maire dit il faut que l'État reprenne à son compte la gestion de l'assurance chômage et il faut peut-être réduire la durée d'indemnisation du chômage, est-ce que vous, vous dites oui ou non? Et quel rôle vous allez jouer dans ce débat budgétaire qui va être de plus en plus tendu?
Ou alors on augmente les impôts
tendu.
Finalement parce qu'on ne peut pas faire autrement.
Alors, il y a deux questions.
Alors, je crois qu'une stratégie de finances publiques, une stratégie fiscale, ça ne supporte pas bien les coups de barre dans un sens ou dans l'autre. Il faut garder de la stabilité, de la visibilité. Donc, nous avons une stratégie qui a consisté non pas du tout à faire, comme je l'entends parfois, de la rigueur et de l'austérité, quand vous êtes à 58% de dépenses publiques, et on vous le reproche symétriquement, quand on a, en effet, augmenté beaucoup la dépense pendant le Covid. Là, on a une situation difficile. Si on perd le contrôle, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si on perdait le contrôle de nos finances publiques, c'est des taux d'intérêt plus élevés, donc c'est des dépenses qui ne servent à rien, vous payez les intérêts de la dette et vous rognez sur le reste. Donc il vaut mieux anticiper. Ensuite, je crois qu'il faut en effet avoir des priorités. Je vais vous dire, je pense que par exemple l'écologie qui, j'étais ministre des Transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre et donc une bonne partie du budget de l'écologie. J'ai vu qu'on avait beaucoup tapé dessus. Bon, il faudra faire attention à ne pas trop taper dans le budget 2025.
Message,
parce que, parce que si on veut justement l'écologie qui ne soit pas punitive et qui ne brusque pas nos agriculteurs, nos travailleurs, notamment les plus modestes, les classes moyennes, il faut les accompagner. Il faut financer le leasing social, il faut financer le passerail et d'autres choses. Bon, donc je prends mon ancienne casquette, mais c'est important de garder une priorité sur l'écologie.
Sur l'assurance chômage.
Il y a l'écologie, il y a l'école, et puis il y a ce qu'on appelle le régalien, qui est très important à la période qu'on vit, nos armées, notre sécurité notamment. Sur l'assurance chômage, on verra ce qui est proposé. Il n'y a pas encore de réforme qui a été proposée.
Mais est-ce que vous dites attention?
Oui, il faut voir où on met les curseurs, bien sûr. Mais est-ce qu'il faudra faire des changements de gestion de notre assurance chômage, de règles d'indemnisation, pour passer encore un cap vers la réduction du chômage, je le crois. Après, dans une période qui est incertaine...
Donc vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire?
Je suis d'accord qu'il faudra...
Il va falloir un tour de vis sur les chômeurs.
Ça ne date pas de cette semaine, ça a été annoncé. Je ne sais pas ce qu'il faudra. Je n'aime pas l'expression tour de vis, parce que je ne suis pas sûr qu'il faille avoir une attitude, si je puis dire, qui cible les chômeurs. J'aime pas ce discours, j'aime pas cette pratique. Bon, mais il faut qu'on regarde les paramètres de l'assurance chômage, peut-être pour que ça soit plus incitatif sur certains sujets, etc. Pour l'instant, pour moi, c'est pas l'immédiat qu'on va faire dans les prochaines semaines. Et par ailleurs, il y a un phénomène nouveau, justement, c'est que comme la croissance est plus faible, comme la situation est difficile, il faudra pas qu'on soit à contre-courant. On aide les gens quand c'est difficile, on renforce nos services publics et nos dépenses sociales quand c'est difficile, et on peut réduire un peu la voilure quand la situation s'améliore. Donc il faut faire attention à ça, mais ça, ce sont les prochains mois qui nous diront quelle est la situation économique exacte.
Sur votre ancienne casquette, c'est-à-dire les transports, il y a un certain nombre de préavis qui ont été déposés pour faire la grève et pour perturber les services avant les JO. Est-ce que vous dites c'est de bonne guerre? Ou est-ce que vous dites c'est vraiment ça risque d'abîmer l'image de la France et de donner encore de
oui, moi j'ai jamais été non plus dans un discours qui consiste à taper sur la grève et les grévistes. Je pense que d'abord ça sert à rien, ça se fait plaisir à certains et c'est pas comme ça que ça marche. Et moi je respecte les gens font jamais grève par plaisir, hein, soyons clairs, même si j'ai des désaccords avec par exemple la dernière grève de la SNCF. Donc j'appelle à la responsabilité et quand j'étais encore ministre des Transports.
Ça veut dire quoi appeler à la responsabilité?
Ça veut dire qu'il y a un dialogue social en amont.
Donc vous trouvez qu'on a été un peu mou et qu'on ne l'a pas fait suffisamment avant?
Non, parce que moi j'ai pu le vérifier dans le secteur que je connais le mieux, que vous évoquez, à la SNCF, à la RATP, chez Aéroport de Paris, chez les contrôleurs aériens, il y a des accords qui sont signés ou en cours. Et moi j'espère qu'avant le début des Jeux Olympiques, le plus tôt possible, il y ait des accords sociaux qui protègent et qui fassent une trêve olympique.
Mais ce à quoi on a assisté
pardon,
hier...
C'est important, ça existe, hein, c'est pas de la théorie. Dans le contrôle aérien, il y avait un préavis de grève, on a fait une négociation. On fait un petit effort de soutien social et salarial, c'est normal, pendant les Jeux, parce que c'est une vraie mobilisation de nos services publics. Et il y a une trêve olympique, donc c'est possible.
Mais Stanislas Guérini a eu raison hier de lâcher d'ores et déjà du lest.
C'était déjà indiqué, ça, c'est pas nouveau. Mais, pardon, là aussi, il faut être raisonnable. On demande, parce que les JO, c'est un événement majeur qui mobilise énormément nos services publics, on sera une vitrine aussi. Tous les athlètes et les spectateurs vont se déplacer en transport public. On mobilise beaucoup plus de chauffeurs de bus et de métro que d'habitude. C'est vrai dans tous les services publics, les policiers pareil. Donc qu'on les aide parce qu'ils annulent leurs congés, parce qu'ils font des heures sup.
Enfin, Gérald Darmanin a bien joué, quoi. Il l'a réglé avec les policiers, avec les gendarmes.
Bien sûr qu'il a raison, mais il faut le faire dans les autres services publics. Ce qu'a annoncé le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, c'est que les fonctionnaires.
Voilà, attendez, je précise juste, Stanislas Guérini a annoncé hier, enfin moi il me semblait qu'il l'avait annoncé, des primes effectivement pour les agents publics de 500 000 et 1 500 euros. Non, mais c'est juste pour que nos auditeurs nous suivent. Parce que là, on
c'était
passé
déjà
un peu vite.
Envisagé. Je crois qu'il a précisé les modalités et les montants hier. Mais que quand il y a un travail supplémentaire, il y a un salaire supplémentaire, ça ne me choque pas.
En revanche, vous iriez nager dans la Seine cet été ?
Oh ben oui, si elle est propre.
Si elle est propre.
Mais je crois que ça va être le cas. Moi, je suis très confiant là-dessus. Et je pense que je ne serai pas le seul, mais je serai assez enthousiaste. Moi, je suis parisien. J'ai entendu les promesses il y a longtemps. Mais là, je crois qu'on y est.
Juste quand même, pour rester sur le sujet précédent, et puis ensuite, on va accueillir notre second invité. On parle de mesures d'économie et on lâche du lest, parce que là, j'imagine que ces montants de primes vont quand même alourdir, effectivement, le déficit. En tout cas, peser sur le budget. On a les moyens de faire ça ?
Oui, ça, je crois que c'était prévu dans les. La copie budgétaire, mais faire des économies, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun sujet sur lequel on ne va pas devoir faire des efforts. Est-ce que si on augmente notre effort militaire, il faudra en payer le prix ? Oui. Donc, faire des économies, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qu'augmente et que tout baisse. Ça veut dire qu'on est précautionneux et qu'on fait des choix. Mais mobiliser le service public et les récompenser à juste titre, si je puis dire, de cet effort réel supplémentaire, ça ne me paraît pas choquant, à condition qu'on ne soit pas dans une surenchère de grève anti-dialogue social.
Merci beaucoup Clément Beaune. Alors vous restez avec nous, évidemment, c'est juste le temps de recevoir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécart.
Installez-vous, Sylvain Kahn. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur à Sciences Po, européaniste, comme on dit, et vous sortez justement un livre sur l'Europe, L'Europe face à l'Ukraine, que vous publiez aux éditions PUF. Alors on a déjà, vous l'avez entendu peut-être, beaucoup parlé de la question ukrainienne depuis le début de cette émission. Mais ce qui est intéressant en particulier dans votre ouvrage, Sylvain Kahn, c'est que vous analysez toutes les crises qu'a connues l'Union européenne depuis sa création et vous montrez à quel point toutes ces crises ont permis à cette Europe de s'affirmer, de grandir. Du coup, est-ce que la guerre en Ukraine en ce moment, est-ce que cette crise militaire pourrait elle aussi jouer ce rôle d'accélérateur d'une Europe de la défense dont on entend parler mais qu'on ne voit pas apparaître ? Est-ce que ça peut aboutir à ça ?
Ça peut, mais comme vous dites, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire. Ça peut en effet parce que, d'abord, il faut bien voir que, comme vous le soulignez, ça s'enchaîne, cette crise, de manière extrêmement rapide et imprévue, avec le choc du Brexit, puis le choc du Covid.
Donc 2016-2020.
C'est ça. Et là, déjà, il s'est passé quelque chose qui pouvait paraître inattendu pour beaucoup de commentateurs ou même de chercheurs, et peut-être même d'hommes et de femmes politiques, à savoir que les Européens ont réagi très vite, de manière coordonnée, et on franchit un pas supplémentaire avec le fameux plan de relance, l'émission de bons du Trésor européen. Et là, on a pu avoir l'impression, le « on » étant les citoyens, et un certain nombre d'enquêtes le montrent, que l'Europe faisait à nouveau partie de la solution, voire était la solution, alors que pendant les 15 années précédentes, ce que j'ai proposé d'appeler la crise des 15 ans, de 2005 à 2020, l'Europe faisait plutôt partie, ou était considérée comme faisant partie du problème, voire était le problème. Lorsque le choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie arrive juste après, alors qu'on n'était même pas sorti de la crise du Covid, il se passe un peu quelque chose du même ordre. C'est-à-dire que d'abord, les Européens, là je parle des dirigeants politiques, réagissent extrêmement rapidement. On est encore en février 2022. Le lendemain et le surlendemain, des décisions très rapides sont prises par les chefs d'État et de gouvernement.
Les sanctions économiques, etc.
Sanctions économiques, le fait de vouloir aider l'Ukraine tout de suite, d'envoyer des armes. Tout de suite, les Européens mobilisent un instrument qu'ils avaient créé peu de temps auparavant, qui s'appelle la Facilité européenne pour la paix. Et à partir de là, se met en branle, on va dire, un espèce de nouveau paradigme où les Européens, Conseil européen après Conseil européen, on est sous présidence française, il y a le sommet de Versailles qui est prévu d'assez longue date. Il y a la question de l'autonomie stratégique qui a été mise sur le chantier et sur la table par Emmanuel Macron et par Madame von der Leyen. Et ben tout ça, on va dire, trouve à se concrétiser avec le fait que les Européens considèrent, soutenus par leurs opinions publiques, c'est très important, ces 27 démocraties, et en général les chefs d'État et de gouvernement et leur majorité parlementaire font les politiques de leurs opinions publiques dans l'ensemble. Il y a effectivement l'idée qu'il faut soutenir les Ukrainiens.
Mais ça veut dire qu'on est en guerre ou pas ? Ça veut dire que l'Europe
est
en guerre ou pas ?
Ça, c'est autre chose. Parce que concrètement, les Européens ne font pas la guerre. Bon, là, en ce moment, on en parle beaucoup en raison des déclarations du président Macron. Mmh. Mais il n'y a pas de soldats, on n'envoie pas l'armée, on n'envoie pas la troupe. Les Européens aident les Ukrainiens. C'est le moment de le souligner. Si on agrège la totalité de l'aide, qu'elle soit budgétaire, humanitaire, militaire, c'est deux fois plus que ce que font les États-Unis d'Amérique. Sur le plan militaire, c'est à peu près 50-50. Et en plus, ce que font les Européens, c'est qu'ils s'engagent dans la durée. Hein. Le gouvernement de Kiev sait que l'aide européenne, qu'elle soit agrégée à l'échelle des 27 ou en bilatéral, c'est des engagements sur 4 ans. Alors que les Américains, on le voit bien, c'est tous les mois, on se demande s'ils vont réussir à renouveler pour le mois prochain. Donc, il y a vraiment un engagement très important. Et surtout qui se prolonge dans la durée. Maintenant, est-ce que ça crée une Europe de la défense ? Pour l'instant, la question est pas encore. Sachant que ce qu'on appelle une Europe de la défense, en tous les cas, chez nous, les européanistes, c'est surtout comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une politique d'industrie de la défense ? Parce que le problème de la défense pour les Européens, c'est que c'est un long héritage hein, qui date au moins de l'histoire moderne, pour ne pas dire du Moyen-Âge. C'est que, juste pour prendre un exemple, sur les 25 premiers pays exportateurs d'armes dans le monde, vous avez 10 pays européens, y compris le Portugal, y compris la Suède. La Belgique, par exemple, j'ai appris ça récemment en travaillant pour mes étudiants, est le premier exportateur mondial de munitions légères.
Donc ça permettrait de faire une Europe de la défense.
Alors ça permettrait de faire une Europe de la défense. Mmh. Mais du coup, vous voyez, ça veut dire que la situation dans laquelle on part, c'est une Europe complètement fragmentée. Mmh. Voilà.
Alors il y a un autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation qu'a l'Europe avec la Russie. Vous rappelez à juste titre dans votre livre qu'il y a 2257 kilomètres de frontières communes entre l'Europe et la Russie. C'est donc un voisin qui est là tout le temps, hein, puissant. Belliqueux, on a eu l'occasion de s'en rendre compte avec la Géorgie, on a eu l'occasion de s'en rendre compte avec la Crimée. Quelle relation construire aujourd'hui avec la Russie ? Est-ce qu'il faut discuter ? Est-ce qu'il faut l'ignorer ? Est-ce qu'il faut oser rétorquer ?
Alors écoutez, moi je ne suis pas diplomate. Et pour les chercheurs, comme on dit souvent, on est en cabinet. Donc les conseils n'engagent...
Regardez tout ça de très loin.
Les conseils n'engagent que ceux qui les reçoivent. Je pense que disons, si on regarde les choses effectivement depuis 1991, c'est-à-dire la fin de l'Union soviétique et l'existence de la Fédération de Russie telle qu'elle est aujourd'hui, et si on regarde surtout les choses depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, on constate qu'il y a un durcissement, on va dire, de la politique européenne du gouvernement russe qui ne cesse de considérer, alors que ça soit avec sincérité ou de manière insincère, peu importe, qui ne cesse de considérer que la politique d'élargissement de l'Union européenne à ses voisins qui demandent à rentrer dans l'UE est quelque chose qui serait considéré comme hostile par le gouvernement russe. J'ai envie de dire c'est la responsabilité du gouvernement russe de percevoir les choses comme ça.
Voilà, et regardons ce qui se passe du côté européen, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse
oui,
le plus.
Alors,
et donc, Emmanuel Macron, est-ce qu'il s'inscrit effectivement dans l'histoire de cette construction de la relation avec la Russie ? Ou est-ce qu'il tape trop fort en ce moment ? Est-ce qu'il va trop loin ?
Non, moi je ne crois pas qu'il va trop loin. Je veux dire, aujourd'hui, la Russie est objectivement un État avec lequel nous partageons, comme vous l'avez dit, 2257 km de frontières,
c'est
qui
vous
est
qui
un l'écrivez. État hostile.
Oui.
Voilà, je veux dire, donc, à partir du moment où il y a comme ça un pays qui est la première ou la deuxième puissance militaire du monde, première puissance nucléaire, et qui envoie sans arrêt des signes d'hostilité. Ça n'a pas commencé en 2022, les signes d'hostilité. Hein. Mmh. Il faut bien voir qu'au moins depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, la Russie viole de manière continue l'espace aérien, l'espace cyber et l'espace maritime des États de l'Union européenne, donc du territoire de l'Union européenne, du côté de la Baltique. Donc voilà, il y a de l'hostilité. On va dire comme ça, le président Macron a fait partie de ceux qui, pendant les premiers mois de la guerre, ont dit qu'il fallait garder un canal de négociation ouvert. Bon, ils n'étaient pas très nombreux à le penser. En tous les cas, on n'en est plus là. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il est clair que il n'y a pas de raison de montrer des signes de, comment on pourrait dire, d'accommodement vis-à-vis de la Russie.
Clément Beaune, très rapidement, on n'a jamais réussi à trouver la bonne distance avec la Russie. La France, nous, et l'Europe de manière globale. C'est compliqué.
C'est d'ailleurs un problème historique, mais vous avez raison de rappeler que tous ceux qui expliquent que c'est parce qu'on a été méchants, agressifs, qu'on a prôné l'élargissement de l'Union européenne, de l'OTAN, vis-à-vis de Vladimir Poutine, à mon avis, on le voit, tragiquement, se sont terriblement trompés. Mm. C'est Poutine, je ne sais pas s'il a changé ou pas, peu importe, mais qui a choisi l'agressivité et même la guerre. On dit c'est l'élargissement de l'OTAN. L'OTAN, il ne s'est pas élargi à l'Ukraine, il a envahi l'Ukraine. Bon, donc à tel point, et d'ailleurs je pense que son legs sera tragique pour la Russie dans la durée, parce que c'est un effondrement démographique, c'est une relation à l'Europe qui s'effondre, et ce sont des pays qui avaient toujours choisi la neutralité, comme la Suède et la Finlande, qui sont rentrés dans l'OTAN. Bravo le bilan.
Très récemment. Merci à tous les deux, merci Sylvain Kahn. Votre livre « L'Europe face à l'Ukraine » est à lire aux éditions PUF. Merci à vous aussi Clément Beaune, bonne campagne pour les élections européennes. Merci encore à Fabienne Lemoyle et à Maury Bauchet pour la préparation de cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Question politique. D'ici là, excellente fin de week-end.